Bonjour à tous. Donc, Benoît Cibot, je vais vous parler de vote électronique et vous expliquer en quoi le logiciel libre n'est pas la solution. D'abord, je vais vous parler un peu de moi, histoire de vous situer mon activité. J'ai agi pas mal pour le logiciel libre et je continue. J'ai été administrateur de l'association April pendant 10 ans et je l'ai présidé pendant 5 ans. Ça fait 10 ans maintenant que je m'occupe du site linuxfr.org comme webmestre. Et j'ai aussi participé à l'organisation des rencontres mondiales du logiciel libre, agi pour la reconnaissance au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO du logiciel libre, et écrit des chapitres dans 3 livres sur le logiciel libre. Professionnellement, je suis ingénieur en informatique dans un centre de R&D. Et j'ai fait du développement informatique. Et maintenant, je suis responsable d'intégration, donc je fais des tests de solutions informatiques, ce qui peut servir, on verra tout à l'heure, pour les questions de tests des solutions de vote. Et je me suis intéressé au vote électronique via les libristes. L'affaire du 13e bit belge en 2003, qui était passé sur une liste liée au logiciel libre, et qui explique qu'il y a eu une erreur de 1024 votants dans un vote en Belgique. Et donc c'était une erreur informatique dans du vote électronique. Et ça m'a concerné. Au début, je trouvais ça intéressant c'était un simple sujet d'intérêt. Et puis là où je réside, c'est-à-dire à Issy-les-Moulineaux, il y a eu en 2006 le choix de passer en 100% vote électronique sur toutes les élections institutionnelles. Et à partir de là, je me suis intéressé plus fortement au sujet et j'ai essayé de montrer les limites et les problèmes que posait le vote électronique dans ce cadre-là. Et ensuite, je me suis retrouvé à définir les positions de l'April sur le logiciel libre et à participer en tant que membre de l'April au Forum des droits sur Internet à un groupe de travail sur le logiciel libre, sur le vote électronique, pardon, en 2007 et en 2008. Qu'est-ce qu'on entend par scrutin et dans quel cadre on va rencontrer les différents types de scrutin? Je vais commencer par faire une introduction sur le vote en général, puis sur le vote électronique ou le vote par Internet ensuite, et enfin venir sur les questions le logiciel libre, histoire qu'on partage une base commune sur ce sujet-là. Donc des scrutins, il y en a de plein de types différents. On peut avoir des scrutins à main levée. Vous avez là, en haut à droite sur l'image, un exemple de scrutin à main levée, une assemblée générale pour décider de la grève, si je me rappelle bien. Vous avez en haut aussi un vote par correspondance. Donc on peut choisir de voter par courrier postal. On met dans une enveloppe et on envoie à l'organisateur de l'élection. On a, de manière générale, on peut avoir des votes par procuration, où on délègue son vote à quelqu'un. On peut avoir des votes avec des bulletins papier, donc de différents types d'ailleurs. Ça peut être des bulletins papier qui sont ouverts, on peut voir ce que vous votez, ou des bulletins papier qui sont secrets, comme on a là dans l'urne, des enveloppes fermées qui contiennent des bulletins. Et puis on a deux autres types de scrutins qui sont souvent regroupés sous le nom de vote électronique, et qu'il faut dissocier. Il y en a un qui concerne le vote par ordinateur de vote, comme on a un exemple en bas à droite sur l'image. Donc on a un terminal électronique qui sert à voter et qui est disponible dans un bureau de vote. Donc les gens se rendent dans un bureau de vote et votent avec. Et les scrutins qui sont par Internet. Donc on a un exemple en bas à gauche où on a des gens qui votent sur des ordinateurs et via un navigateur et qui se connectent quelque part et qui votent dans le cadre d'un scrutin dans l'éducation nationale, si je me rappelle bien. Donc on a tous ces différents types de scrutins et on va voir que suivant les types de scrutins et dans quel cadre c'est organisé, les problématiques sont un petit peu différentes. Voilà une chronologie des passés et un petit peu futurs des élections qui m'ont concerné personnellement, sur lesquelles j'ai eu à me prononcer. Et on voit, de manière générale, on voit qu'il existe différents types d'élections. Il y a bien évidemment les élections institutionnelles. Donc chaque fois qu'en tant que citoyen, quel que soit votre pays d'ailleurs, vous êtes invité à aller voter pour des municipales, des cantonales, des législatives, la présidentielle, les européennes, les élections régionales, etc. Il y a aussi des élections qui sont les élections professionnelles, représentant les délégués du personnel et autres, les prud'homales, ce genre d'élections. Pour les étudiants, les élections étudiantes pour choisir leurs représentants aussi. des élections associatives au sein d'une association pour choisir qui sera le nouveau bureau, le nouveau président, le vote des bilans moraux et financiers, etc. Des scrutins aussi dans le cadre des coopératives. Quand vous avez une entreprise qui a choisi comme forme d'être une coopérative, souvent ça veut dire que tout le monde va participer à la prise de décision, et donc il faut trouver un moyen de définir, de prendre des décisions dans l'entreprise. Donc il y a des scrutins dans ce cadre-là aussi. Vous avez des simples consultations, ou des référendums on pourrait dire, pour demander l'avis d'une population donnée, quelle que soit cette population, donc que ce soit une population de citoyens d'un pays, une population dans un cadre professionnel, associatif, privé, familial, ce que vous voulez. Et le dernier point concerne la question de la démocratie participative, ou liquid democracy, qui consiste à demander le plus souvent possible et directement aux gens concernés, donc souvent l'électeur citoyen, ce qu'il pense des différentes décisions à prendre et qu'est-ce qu'il envisage comme choix politique à faire. Donc il y a un vaste choix d'élections, de scrutins qui sont possibles. Et comme vous le voyez ici, il y a des scrutins qui sont, pour ce qui me concerne moi, c'est pas forcément la même expérience pour vous, puisque ça dépend de la ville où vous résidez notamment. On voit qu'il y a eu des scrutins qui sont mixtes, c'est-à-dire un mélange de vote électronique et de vote papier. Il y a des scrutins qui sont uniquement par Internet, comme l'élection des conseils de quartier. Il y a des élections qui sont uniquement par ordinateur de vote. Donc pour ici les Moulineaux, c'est 100% vote électronique depuis les élections de 2007. Donc toutes les élections institutionnelles françaises pour moi sont 100% vote électronique. Et de temps en temps, il y a des scrutins papier. Donc le dernier scrutin papier auquel j'ai pu assister, c'est les élections professionnelles. Quelles sont les problématiques qui se posent dans le cadre d'un scrutin qui est non électronique ? Donc on va dire, quelle que soit la forme qu'il prend et qui n'est pas électronique. On a des problèmes classiques qui sont la logistique, l'organisation, mettre en place éventuellement des isoloirs, prévoir des urnes, avoir suffisamment de gens, que tout soit prêt à temps. Il y a des questions de coûts, il y a des questions de temps. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément, c'est que quand vous sondez une population, vous invitez une population donnée à une élection, si la population est suffisamment large, vous rencontrez des problèmes de compréhension du français, des problèmes de handicap, des problèmes de personnes âgées qui ont du mal à lire, qui ont du mal à voter, qui ont du mal à se déplacer, etc. Vous avez un problème sérieux qui est la tentation de la fraude. L'homme étant ce qu'il est, dès qu'il y a un enjeu de pouvoir, un enjeu électif, un enjeu financier, et pour plein d'autres raisons, il y a la tentation de la fraude. Donc la tentation de la fraude est à envisager en fonction de la situation, de l'enjeu de l'élection. Mais toujours est-il qu'elle est très souvent présente, même, faut pas croire que quand il n'y a pas d'enjeu ou que les enjeux sont faibles, les gens ne vont pas essayer de frauder. Par exemple, si vous pensez que dans le cadre des associations du logiciel libre, il n'y a pas de fraude, ben vous avez tort. Moi, j'ai déjà vu des cas de fraude dans les associations du libre où des gens ont truqué des listes électorales, par exemple. On a les erreurs qui sont possibles, des erreurs aux différents niveaux, ou de la fraude. Ça peut être difficile à déterminer. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, ça peut être pendant la campagne, ça peut être pendant le scrutin, ça peut être sur la liste électorale, ça peut être pendant le dépouillement, ça peut être à la publication des résultats, donc plein de cas possibles. On voit que une des problématiques, ce qui rend le vote et les scrutins entre guillemets, compliqués à contrôler, c'est que souvent, le bulletin est secret, parce qu'on considère que dans une démocratie, les bulletins, on doit voter à bulletin secret. Et à partir du moment où le bulletin est secret, ben on a une absence de preuves, c'est pas vraiment possible de montrer que chacun puisse dire « mais oui, moi j'ai bien voté pour lui et du coup je vais retrouver mon vote à la fin et de vérifier ». Le fait que le bulletin soit secret rend la chose particulièrement compliquée. Contrairement à la plupart des autres choses de la vie, actions de la vie que vous pouvez faire, plein d'autres choses sont traçables. Par exemple, vous allez au distributeur, vous retirez de l'argent, d'un côté vous avez mis votre carte et de l'autre côté vous avez de l'argent, vous avez laissé des traces. Vous êtes filmé, il y a plein de preuves qui peuvent servir à montrer que ça s'est passé correctement. Dans le cadre du vote, c'est compliqué. Le fait que le bulletin soit secret pose des problèmes à la fin. Il faut contrôler tout le temps, il faut contrôler toute l'opération pour être bien sûr que tout se passe correctement. Du coup, il y a une codification qui a été faite des opérations de vote et qui encadre tout, qui va encadrer les bulletins, la taille des bulletins, leur couleur, la mise sous enveloppe, les urnes, comment on vote... même sur des scrutins qui ne sont pas papier d'ailleurs, hein, on a une codification du vote qui est prévue pour toutes les élections et qui dit comment ça doit se passer, comment on décide du gagnant, est-ce que c'est du scrutin par liste, par personne, est-ce qu'on a le droit de rayer des noms, etc. Et en plus, on met des autorités de contrôle pour vérifier que tout va bien se passer, que tout s'est passé correctement, qu'il n'y a pas eu de gens qui ont fait pression, qu'il n'y a pas de gens qui ont essayé de tricher. Enfin, au maximum, on essaye de limiter ça. On va noter un premier problème qui est dû à la modernité, entre guillemets, au progrès scientifique et technique. L'apparition des mobiles et des smartphones commence à poser des problèmes sur les scrutins papier. Parce que à partir du moment où vous avez le moyen de filmer, de prendre des photos, voire plus, parce que je rappelle qu'un smartphone, il sait faire d'autres choses. Par exemple, il pourrait, il peut faire micro, il peut faire pas mal d'autres choses. On peut commencer à montrer pour qui on a voté. Du coup, on peut être payé, on peut se faire acheter son vote. Et il y a plein de problématiques qui apparaissent avec l'électronique embarquée de manière générale. Alors, rien n'est simple, mais malgré tout, on constate qu'il y a des évolutions lentes. Donc, ça peut être des évolutions qui sont liées à l'évolution de la base électorale concernée. Hein. Quel que soit le type de scrutin dans lequel on est, il y a en général ce type d'évolution qui arrive. Par exemple, le vote des femmes arrive en 1944 en France. Dans les années 70, si je ne m'abuse, on a l'abaissement de la majorité à 18 ans, par exemple, qui change aussi la base électorale pour les élections institutionnelles. Des choses plus basiques auxquelles la plupart d'entre nous doit sans doute penser que ça a toujours existé, c'est la notion d'urne transparente. Eh ben non, l'urne transparente, c'est assez récent en France. Hein. L'urne transparente, ça date de 1988 en France. Avant, on avait des urnes opaques. Et les urnes opaques, on s'est aperçu que ça pouvait poser problème parce que des fois, elles étaient pré-remplies avant le début du scrutin. On a, dans les évolutions récentes, on peut noter les changements sur le financement des partis, par exemple. Il y a plein de problèmes qui sont arrivés autour de cette question de financement. Et pour prendre des exemples encore plus récents, les dernières élections en Tunisie, les avant-dernières plus précisément, à l'époque de Ben Ali, se faisaient avec des enveloppes transparentes. Donc à l'intérieur, on mettait des bulletins de couleur et les enveloppes étaient transparentes. Donc vous votez pour qui vous voulez, mais tout le monde sait pour qui vous avez voté. Voilà, c'est avec les changements en Tunisie, les derniers scrutins étaient faits avec des enveloppes opaques. Finalement, on note que ça ne fonctionne pas si mal que ça. Il y a des problèmes de temps en temps. Vous voyez... la capture du contentieux électoral du Conseil constitutionnel. Bon, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises et qui, en cas de protestation, qui disent s'il y a eu ou pas fraude, si l'élection est invalidée ou pas, s'il faut la recommencer, etc. Il y a quelques cas régulièrement, mais ça se passe relativement bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un scrutin électronique ? Donc là, on va parler d'un scrutin électronique. Je vais aussi bien regrouper la question des ordinateurs de vote que la question du vote par Internet. En fait... Le vote par Internet comporte les mêmes problématiques que celui des ordinateurs de vote et il en ajoute encore d'autres. Donc c'est encore plus compliqué. Ces deux types de scrutins électroniques comportent les mêmes problèmes que tous ceux que j'ai évoqués précédemment. Il n'y a aucune raison que le fait que ce soit électronique ne change quoi que ce soit à problème de la logistique du coût, du handicap, de la traduction multilingue ou de la compréhension des gens, etc. Ça ne change à rien. Par contre, vous ajoutez d'autres problèmes, des problèmes supplémentaires. Alors d'abord, il y a des choses qui sont relativement simples, qui sont la problématique du code électoral peu adapté. Ah oui, parce que jusque-là, le code électoral, il a été plutôt prévu pour gérer des votes papier, et maintenant, il faut le modifier. Donc si c'est mal prévu dans le cadre des votes institutionnels, je vous laisse supposer ce que ça donne dans le cas des votes associatifs ou autres, qui encadrent beaucoup moins, qui ont beaucoup moins de bases réglementaires pour organiser une élection. Qui en général s'appuie sur la façon de faire des élections institutionnelles. Qui dit électronique dit on a des choses qui sont en obsolescence rapide et on a des déchets électroniques à gérer. Ça, c'est un problème supplémentaire. Bon, c'est un problème relativement basique pour une collectivité, mais c'est un problème quand même. On a une dépendance aux fournisseurs qui va se créer à partir du moment où vous faites du vote avec des terminaux électroniques, il faut que quelqu'un vous les fournisse. En l'occurrence, en France, par exemple, il n'y a que 3 fournisseurs d'ordinateurs de vote pour les élections institutionnelles, et les 3 sont étrangers. Donc il y a un néerlandais, un espagnol et un américain. Donc vous avez une dépendance vis-à-vis de ces 3 fournisseurs-là. Il n'y a qu'eux qui vous fournissent du matériel. Dans le cadre du vote par Internet, même problématique, il y a quelqu'un qui vous fournit un serveur et qui compte les voix, et vous êtes dépendant de ce fournisseur-là pour votre élection. Jusque-là, c'était les problèmes faciles. On va passer aux 2 vrais problèmes sérieux du vote électronique. Le terminal qui est là, l'ordinateur de vote, c'est le terminal qui est utilisé ici au Moulineau. Le premier problème d'un scrutin électronique, c'est qu'il est inexplicable. Alors, ce qui est souvent la comparaison retenue, on va comparer à un scrutin papier. Le scrutin papier, vous pouvez l'expliquer au lycée, à des lycéens, comment ça se passe, quel est leur rôle, comment on procède pour voter, quels sont les contrôles qui sont mis en place, etc. Et donc, vous mettez un papier dans une enveloppe, l'enveloppe elle est opaque, on met dans une urne, l'urne elle est transparente, on a rempli dans l'isoloir, à la fin il y a un contrôle par des assesseurs, c'est assez facile à expliquer, on manipule du papier, c'est facile à expliquer. Dans le cadre d'un scrutin électronique, il y a plein de problèmes qui arrivent liés à l'électronique. Bon, donc là vous avez diverses illustrations, faisons un exemple simple, qui peut m'expliquer qu'est-ce que fait le composant électronique qui est en haut à droite? Bon, comme ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle qui sont capables d'expliquer réellement en détail comment ça fonctionne. Même chose si on regarde le code source qui est en bas à droite. Même chose si je demande comment fonctionne l'accès à un réseau ou comment on fait pour voter par Internet, quel est le cheminement qui est fait par votre bulletin sur un réseau, combien d'équipements intermédiaires, des routeurs vont avoir vu passer votre bulletin. Ou des choses qui est en général, quand on fait du vote électronique, on a de la cryptographie qui apparaît. Bien, qui dans la population peut m'expliquer comment fonctionne la cryptographie? Qui comprend ce que veut dire le certificat de crypto qui est en bas à gauche? Qui est capable d'expliquer la formule mathématique qui est au milieu et qui explique un des algos de chiffrement les plus connus? Bref, et je vous parle même pas du vote, enfin des expériences en Suisse où ils font du vote avec de la transmission quantique. S'il y en a un qui veut expliquer la physique aux citoyens lambda, il va avoir du travail. Globalement, on se retrouve à avoir un vote sur lequel le contrôle n'est théoriquement possible que par les spécialistes. Et encore, en général, un spécialiste d'un de ces sujets-là, qui est capable d'expliquer en détail comment ça fonctionne, il est juste capable d'expliquer un de ces domaines et pas tous les domaines réunis. Donc ça donne un contrôle fait par une élite, et encore, c'est un contrôle théorique. On verra pourquoi tout à l'heure. Globalement, ça veut dire que pour tous les autres qui participent à un scrutin électronique, il y a une boîte noire, ils mettent leur bulletin dedans, ils espèrent que ça va bien se passer. Parfois, ils ont le mythe de l'ordinateur est infaillible qui leur aide à croire que tout va bien se passer, mais malgré tout, on reste dans le cadre d'une boîte noire. Et du coup, comment est-ce qu'on obtient la confiance de l'électeur ou comment est-ce qu'on obtient une confiance qui est acceptable? Parce que s'il a juste confiance en disant « c'est un ordinateur, ça marche bien », c'est pas ce que je vais appeler une confiance acceptable. Donc c'est valable quel que soit le type de scrutin, pas spécialement pour les scrutins institutionnels. On a un deuxième problème qui est encore plus embêtant, parce que jusque-là on disait que peut-être que les spécialistes ils pourraient faire quelque chose, mais en fait non, rien du tout. C'est impossible à contrôler un vote électronique. Pourquoi ? Parce que on dématérialise l'information, et l'information dématérialisée, ça se voit pas, ça se contrôle pas, c'est impossible à suivre, et on sait pas quel traitement on lui applique dessus. Globalement, vous êtes face à une boîte noire. Des exemples, comment est-ce qu'on vous dit on va utiliser tel logiciel, tel matériel ? Très bien, comment est-ce que vous savez que ce logiciel et ce matériel ils font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qu'ils font exactement les opérations qui sont destinées au scrutin? Comment est-ce que vous le savez? Comment est-ce que vous le prouvez? Comment est-ce que vous le montrez? Comment vous savez ce que fait un logiciel qui tourne sur une machine auquel vous n'avez pas accès? Et même quand vous avez accès, comment est-ce que vous savez qu'elle fait exactement ça? En fait, on n'a pas vraiment de solution à ça. Comment vous savez que le logiciel ou le matériel ils font exactement et uniquement ce qu'ils doivent faire? Des logiciels qui ont des bugs, on en croise souvent. Des logiciels qui sont faits pour faire du phishing et des choses malveillantes, on en croise souvent. C'est assez difficile de montrer qu'ils font juste ce qu'ils doivent faire. Et le point le plus embêtant, comment vous savez que c'est ceux qui sont prévus qui tournent? Quand vous allez dans un bureau de vote et qu'on vous dit « Tenez, ça c'est le terminal de vote », comment vous savez qu'il contient le matériel qu'il est censé contenir? Comment vous savez qu'il fait tourner le logiciel qu'il est censé faire tourner? C'est impossible à montrer. Vous pouvez regarder un processeur autant que vous voulez, vous ne verrez pas quel est le logiciel qui tourne dessus. Ensuite, on a affaire à des ordinateurs de vote. Et le terme est volontairement important, c'est on est passé d'une terminologie de machine à voter, qui était des machines électromécaniques, assez basiques, avec on va dire des engrenages, pour dire simplement, à un ordinateur de vote. Donc un ordinateur, c'est un équipement numérique qui est capable de faire tout traitement de l'information qui est possible d'imaginer, et qui a donc une généricité qui est capable de faire plein de choses. À quoi ça sert un ordinateur de vote pour faire une élection où on doit juste faire des additions? Vous voyez, la problématique qui arrive, c'est qu'on a un équipement qui peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'il devrait faire, qui est beaucoup trop puissant, riche, tout ce que vous voulez par rapport à ce qu'il doit faire, et du coup, ça va poser des problèmes. Conséquence, on va avoir des pannes, on va avoir des bugs, on va avoir des possibilités de fraude, Et en plus, dans certains cas, on peut avoir des possibilités de déni de service. Parce qu'on peut très bien envisager que quelqu'un s'attaque à l'équipement. Par exemple, l'équipement que vous voyez en bas à droite, là, il a un port infrarouge. Ce qui veut dire que si vous avez un équipement qui fait de l'infrarouge, vous pouvez envisager d'attaquer ce terminal. Quand vous avez un site sur Internet qui fait du vote électronique, vous pouvez envisager d'attaquer le site. Même si vous n'êtes pas concerné par l'élection, vous pouvez faire tomber un site. Un exemple, l'Estonie a décidé de faire du vote par Internet. À un autre moment, l'Estonie a déboulonné la statue de je ne sais quel général russe, les conséquences des problèmes entre l'Estonie et la Russie. Officieusement, les Russes l'ont mal pris, ils ont attaqué l'Internet de l'Estonie globalement, et ils ont rayé l'Estonie de la carte d'Internet pendant un certain temps, pendant quelques jours, pendant 3 jours. Bon, il se passait quoi s'ils avaient fait leur élection ce jour-là? Leur élection n'était pas possible parce qu'ils n'avaient pas d'accès à l'urne électronique, j'allais dire au site qui sert à enregistrer les votes. On constate que le scrutin électronique, il est complexe à réaliser et qu'il est impossible à contrôler. Et du coup, comment on fait pour avoir la confiance de l'électeur là-dessus? Même chose que précédemment, soit on suppose qu'il a juste confiance, aveuglément, soit on veut lui expliquer, ça va être extrêmement compliqué vu qu'on ne sait pas lui expliquer, que c'est pas possible de lui expliquer. On ne connaît pas de méthode pour le faire. Et imaginez la problématique pour les assesseurs. L'assesseur, il doit dire que tout se passe correctement. On lui dit, voyez, il y a une boîte noire, tout se passe correctement. Est-ce que vous pouvez dire que tout se passe correctement? L'assesseur, il peut rien vous dire. Du coup, ça fait des années qu'il y a des informaticiens et des scientifiques qui alertent sur les problématiques qui se posent. Il y a une situation lamentable en France sur les élections institutionnelles. Les machines qui sont utilisées c'est scandaleux d'utiliser ce type de machine pour faire ça. Pour donner des exemples de leur qualité, voici les tickets d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote qui sont imprimés à Issy-les-Moulineaux. Donc vous constaterez que la machine n'est pas capable d'écrire en français, qu'il y a des mentions en anglais au milieu qui sont incompréhensibles. Et plein d'autres problèmes, donc j'ai constaté des quantités de problèmes sur ces machines. Techniquement, c'est juste honteux de les utiliser pour faire des élections institutionnelles. Il y a eu des scandales aux États-Unis, en Europe, dans différents pays, sur le vote électronique. Il y en a plein à la presse. Chaque fabricant a eu son lot de failles de sécurité et autres, à tel point qu'il y en a un qui a changé de nom pour son activité vote électronique a changé de nom. Pour pas qu'on puisse que ça nuise à son image de marque en général. Donc c'est les machines Diebold qui sont renommées en première election. Et donc il y a des annonces de failles très régulièrement. Ça veut pas dire que les choses évoluent pas, mais c'est super problématique tout de même. On est passé d'une situation où on avait des machines à voter. Il y a eu l'utilisation de machines à voter en France dans les années 60, je crois. Et ça a été arrêté parce qu'il y a eu des fraudes dessus. Ça a été transposé, et maintenant on fait du vote avec des ordinateurs de vote. Déjà, le règlement technique qui a été établi, il est tout pourri, disons-le simplement, il est tout pourri. Il précise quasiment rien sur les contraintes sur le logiciel. Par contre, il prévoit des trucs intéressants comme l'autonomie, une autonomie de 24 heures, la machine, elle doit marcher quand on l'échappe d'un mètre de haut, des choses comme ça. Mais elle dit rien sur comment elle doit fonctionner. Et du coup, elle fonctionne n'importe comment, les machines qui sont utilisées actuellement. Il y a eu des tentatives de débat, mais c'est très compliqué parce que d'abord on a pris les décisions et ensuite on a lancé le débat. Faire un débat a posteriori, c'est toujours plus difficile. On voit par exemple que le Forum des droits sur Internet a fait une recommandation sur le vote électronique. Et j'ai participé au sein du groupe de travail pour donner la position de l'April. L'April a claqué la porte avant la publication de la recommandation parce qu'on n'était pas d'accord avec. D'où le fait que vous constatez au milieu de la recommandation, ils ont intégré une position minoritaire de l'April et expliquant la position de l'April sur le vote électronique. On peut voir aussi que ceux qui suivent vraiment la question du vote électronique, en l'occurrence ordinateurdevote.org, ils ont sorti un communiqué de presse pour critiquer cette recommandation. Et on peut voir aussi que quelques temps après, le ministère de l'Intérieur a dû rechanger des choses sur les machines à voter, conseiller aux maires d'arrêter de s'équiper, etc. Et au final, la situation elle avance lentement, mal, et les problèmes sont toujours pas réglés. D'autant que la situation n'avance que quand il y a des élections. Donc en période où il n'y a pas d'élections, personne ne fait rien. Ça avance lentement. Et si vous imaginez que si ça pose problème quand c'est encadré, organisé dans le cadre d'élections institutionnelles, quand c'est libre et que vous utilisez la machine que vous voulez, qui a été faite par le constructeur qui a décidé qu'il se lançait dans le vote électronique, c'est encore moins bon. Le vrai problème, c'est que pour faire du vote électronique, on cherche à avoir une sorte de e-tabouret à 3 pieds, il n'existe pas réellement, pas en vote électronique. On a besoin d'avoir 3 choses pour avoir un pour que ça corresponde à ce qu'on considère comme étant un scrutin démocratique. Alors, j'entends par scrutin démocratique ce qu'on entend en général pour une élection institutionnelle, mais ça va être valable pour tous les types de scrutins que vous voulez dans n'importe quel cadre. En général, on considère qu'ils font le secret du vote. Pourquoi ? Parce que si vous faites un scrutin où on voit les votes de tout le monde, on peut supposer que quand vous allez faire à main levée, il y aura des pressions. Et que les gens, il peut y avoir des pressions et que d'autre part, les gens votent pas pareil quand ils le font un bulletin secret ou un bulletin ouvert. Si je prends un exemple très simple, si je demande ici qu'est-ce que vous pensez de cette présentation et que je vous le demande de le faire à main levée, je pense que j'aurais pas le même résultat que si je le fais avec des bulletins secrets. Parce que vu que je vous regarde, vous allez avoir du mal à me dire c'était nul. Bon. Un autre problème, c'est que ce soit explicable à tous. Donc là, on a vu, ça va être compliqué. Dès qu'on vient, ça devient électronique et dématérialisé, on n'arrive pas à l'expliquer à tous. Ça, c'est un vrai problème. Et le dernier point, c'est la vérifiabilité. C'est embêtant parce que on sait pas vérifier l'élection quand tout est réuni. Donc en fait, quand on veut avoir tous ces critères-là, on sait pas faire. C'est embêtant. Maintenant, ajoutons le logiciel libre dans l'histoire. Donc des logiciels libres pour gérer du vote électronique ou du vote par internet ou des scrutins, des consultations, de ce que vous voulez, il y en a plein. Il y a beaucoup de logiciels libres qui existent pour faire ça et j'ai listé ceux que je connais, mais c'est totalement non exhaustif. Ceux que j'ai trouvés, il y en a qui sont actifs, d'autres qui sont plutôt disparus. Voilà. On voit qu'il y a plein de logiciels qui peuvent servir à gérer du vote électronique. Et on voit même qu'il s'est créé une fondation pour du vote électronique open source qui fait des terminaux, qui veut faire des ordinateurs de vote, y compris la partie matérielle. En l'occurrence, les équipements qui montent là, c'est ceux qu'on utilise à ICIMWIN ou ceux qui ne marchent pas. Donc il y a beaucoup de logiciels qui existent. On peut voir aussi que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les libristes, ou que ça soit en tant qu'auteur d'interrogation sur le sujet, ou parce qu'ils sont amenés à fréquenter fréquemment des gens qui travaillent sur le sujet du vote électronique. On peut voir par exemple, j'ai pris quelques extraits, on peut voir que sur le vote des Français de l'étranger, il y avait deux experts sur trois qui étaient des gens qui sont liés au logiciel libre. François Pellegrini qui est très actif sur la question des brevets logiciels et Bernard Lang qui était administrateur de la FUL. Je suis intervenu pour faire des conférences aussi. David Monio avait donné ses positions. En Belgique, il y a aussi pas mal de gens qui sont actifs sur ce sujet-là. Il y a eu des interventions dans le cadre des rencontres mondiales du logiciel libre. Donc, c'est un sujet qui intéresse le libriste. Prenons des exemples du vote électronique géré par des libristes. Bon, on prend le premier exemple, le vote par Internet, ce que j'ai appelé le vote par Internet pour geek par Debian. Donc, prérequis pour pouvoir voter chez Debian, il faut comprendre comment fonctionne leur logiciel de vote. Et si on voulait contrôler l'intégralité du scrutin, il faut comprendre l'informatique, le courrier électronique, la cryptographie et deux, trois autres trucs. Donc en gros, c'est un scrutin qui est fait pour des geeks et des développeurs. Si vous arrivez à comprendre ce qu'il y a en bas, c'est que vous avez à peu près les prérequis pour pouvoir participer. Et de fait, ils font des scrutins à bulletin ouvert. Donc là, il y a les résultats de deux scrutins chez eux. En bas à gauche, on voit donc les bulletins de vote de tout le monde, de toutes les personnes qui ont participé. Et la série de chiffres, le 6, 5, 5, 4, 2, 3, 1, c'est l'ordre dans lequel ils notent les bulletins. Donc ils ont un système de vote qui permet de prioriser, de classer les choix. Et on voit là, en l'occurrence, celui que je viens de citer, c'était le bulletin de vote de Steve McIntyre. Là, et donc c'est son bulletin est public. À côté, on a un vote pour l'élection du grand chef chez Debian. Et c'est pareil, on voit les bulletins, l'identité des personnes est masquée. Et là, ça devient encore plus compliqué de savoir si le scrutin est correct, parce que le seul qui peut vérifier son bulletin, c'est l'électeur lui-même. Donc ça pose d'autres problèmes. Donc ce scrutin-là ne correspond pas aux critères qu'on a définis précédemment du tabouret à trois pieds qui n'existe pas. Et, voilà. Un exemple. Un autre exemple concerne le vote mixte pour geek de l'April. Alors là, on a un scrutin qui est moitié par vote à main levée et une autre partie en vote par Internet. Donc la dernière fois, ils utilisaient un logiciel qui s'appelle PollO. Il y a eu d'autres logiciels qui ont été utilisés auparavant. Et donc si on veut pouvoir contrôler cette partie-là, la partie vote par Internet, il faut pareil toujours comprendre le principe du logiciel, l'informatique en général, les réseaux, la cryptographie, etc. Donc c'est inabordable pour la plupart des gens. En plus on a un mélange de bulletins fermés pour ceux qui votent par Internet et de vote à main levée, donc à bulletin ouvert globalement. Bref, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a d'ailleurs une discussion en cours sur ce sujet-là pour savoir comment faire pour essayer d'améliorer les choses. On voit en l'occurrence en bas dans les résultats d'un scrutin que il y a 95% des gens qui votent en ligne. Donc le poids du vote électronique est particulièrement fort dans ce cadre-là. De fait, la question c'est dans les solutions possibles, il y a l'abandon du vote électronique, effectivement, mais ça pose d'autres problèmes. Et il y a aussi comment on fait pour placer le curseur entre je veux un vote secret et je veux contrôler ce qui se passe. Il y a une position de l'April sur le vote électronique, et dont voici un des extraits qui dit « Le vote électronique est problématique lorsque l'anonymat doit être préservé. Dans le cas où le vote à main levée est acceptable, le vote électronique est possible. Les administrateurs du système peuvent donc savoir ce que chacun a voté, et les votants doivent donc avoir confiance en eux. » D'où la question du « où est-ce qu'on veut placer le curseur ?» Dans tous les cas, le vote, il est jamais 100% secret. J'ai mis la bannière Candidat FR, puisque dans le cadre de la campagne Candidat FR, il avait été diffusé pour les candidats au présidentiel des questions sur le vote électronique aussi. Donc il y a des choses qui sont faites pour faire avancer les choses côté après. Mais quels sont donc les apports du logiciel libre sur le vote électronique ou le vote par Internet ? Ben, on retrouve les avantages classiques du logiciel libre. D'une part, on peut espérer, enfin, on amène, en donnant accès au code source, on amène plus de transparence et donc potentiellement un peu plus de confiance aux électeurs concernés, quels qu'ils soient. On peut espérer de la revue par les pairs et donc que des gens qui soient compétents techniquement vont regarder comment ça fonctionne, etc. et donc améliorer la sécurité. On peut espérer une mutualisation, ce qui est non négligeable, parce que jusque-là, chacun utilise sa solution dans son coin. À partir du moment où la solution est à base de logiciels libres, on peut espérer que les élections des différents pays, des différentes associations, des différentes entreprises, des différents tout ce que vous voulez, puissent utiliser les mêmes logiciels, et donc qu'ils aient mutualisé une partie du coût de développement. On peut évidemment avoir plus d'indépendance vis-à-vis des vendeurs, ce qui serait pas si mal après tout. Pour donner un exemple de la problématique que ça pose, aux États-Unis, les deux plus gros vendeurs de solutions de vote électronique qui se partagent 90% du marché. À la tête d'une des boîtes, il y a le frère du vice-président de l'autre boîte. Bon, c'est un peu embêtant comme situation. Donc le logiciel libre aurait un intérêt particulier. On peut espérer aussi des évolutions rapides, et le fait que ce soit du logiciel libre va permettre des corrections et que ça évolue assez rapidement. On peut espérer avoir des traductions dans toutes les langues, donc ça c'est assez intéressant si vous voulez faire des scrutins institutionnels dans chaque pays où on est obligé de... Enfin, le scrutin est censé être fait dans la langue du pays, hein, même si on a montré qu'ici le Moulineau on n'est pas obligé d'écrire en français pour des élections. Ça peut amener du support de nouveaux matériels et de nouveaux logiciels, donc il y a un certain nombre d'avantages. D'ailleurs, il faudrait se poser la même question que pour le matériel ouvert. Après tout, ça sert à rien d'ouvrir le logiciel si le matériel, on ne sait pas comment il fonctionne. Donc il faudrait à peu près se poser les mêmes questions à propos du matériel ouvert et savoir comment fonctionne le matériel de vote. Sauf que, en fait, ça ne règle pas les problèmes qu'on a vus précédemment. Ok, il y a des avantages, mais ça rend pas le scrutin électronique plus facile à expliquer. C'est pas parce qu'il y a du logiciel libre que ça devient plus simple, qu'il n'y a plus de dématérialisation, qu'il ne faut pas expliquer comment y transporter l'information, comment elle est manipulée, etc. Un autre point, logiciel libre ou matériel libre, ça ne veut pas dire qu'il est prouvé qu'il fonctionne correctement, ou même qu'il est prouvable qu'il fonctionne correctement. En gros, on peut faire de la preuve de code sur du logiciel, mais c'est pas parce que le logiciel il est prouvé qu'il est libre, et c'est pas parce qu'il est libre qu'il est prouvé. Donc c'est deux critères indépendants. Et en plus, la question de la preuve, en général, il faudrait se poser la question de la preuve sur une version donnée, montrer qu'elle fait bien juste ce qu'elle doit faire et qu'elle fait correctement ce qu'elle doit faire. Alors là, on arrive à la problématique de la certification. Si on doit certifier du logiciel libre ou du matériel ouvert ou ce que vous voulez pour un contexte d'élection, ça veut dire qu'à un moment, on prend une version, elle est figée. Donc ça veut dire que les avantages de pouvoir le faire évoluer rapidement, etc., on les a plus vraiment, et qu'en plus, il faut payer les coûts de certification à chaque fois et que ça peut redevenir assez cher. Donc il y a toujours ce problème-là qui se pose. Et puis finalement, ça n'amène pas plus de contrôle citoyen possible, parce que peut-être que ça va être le bon logiciel qui tourne, et peut-être que ce sera le bon matériel qui fonctionne, et peut-être qu'ils vont fonctionner correctement. Mais en tant que citoyen, vous n'êtes pas guère plus avancé, surtout si vous n'êtes pas spécialiste. De fait, l'utilisation de logiciels libres n'est pas suffisante pour rendre le vote électronique acceptable. On peut considérer que ça améliore un petit peu les choses, mais ça ne rend pas le vote électronique pour autant à l'épreuve de toutes les problématiques qui se posent. Et c'est un vrai problème. D'autant qu'il a déjà été choisi qu'il y ait du vote électronique sur les scrutins officiels. En fait, on est face à un problème qui, actuellement en tout cas, on va pas présager de l'avenir, mais actuellement, il n'a pas de solution. Et on connaît pas de, y a pas de solution à un problème qui regroupe à la fois le secret du vote, la possibilité pour tout un chacun de le vérifier, et le fait que ça soit explicable simplement à tous. Si on choisit de supprimer l'un des pieds du tabouret, ça devient assez simple. Vous enlevez le secret du vote, ça revient à faire du vote à main levée. Faire du vote à main levée, tout le monde garde la main levée, on compte, on peut vérifier, il n'y a aucun souci, tout le monde peut vérifier que ça se passe correctement, facile. Vous demandez à ce qu'on vérifie rien, pareil, même chose, si on arrête de vérifier, il y a plein de trucs qui deviennent assez simples électroniquement à faire. Que ça soit plus explicable à tous, c'est la situation actuelle. On ne peut pas vérifier et c'est pas explicable, vous pouvez garder le secret du vote, personne ne peut vérifier que ça se passe correctement, vous avez la situation actuelle. En fait, les trois ensemble, on sait pas les faire, mais si on en a deux sur trois, on sait faire facilement. Et c'est ça le vrai problème, c'est que personne connaît de solution actuellement à ce problème-là. Et on va pas présager de l'avenir, mais c'est quand même pas gagné, parce que la dématérialisation fait que ça rend les choses vraiment compliquées. Tenir des choses simples, après, pour expliquer aux gens, fait que ça risque d'être très compliqué. D'où l'illustration que j'ai choisi d'avoir un mi-tabouret d'AU, parce que ça risque d'être quelque chose qu'on rencontrera pas souvent. Alors certes, il y a des arguments en faveur du vote électronique. Il faut quand même noter que il y a quand même des avantages à faire des scrutins électroniques. Outre la simplicité possible, le fait de pouvoir consulter plein de gens. De fait, ça fait moderne. Ça peut avoir des avantages de rafraîchir, de moderniser la démocratie, à condition que ça reste démocratique. On a de nouveaux types de scrutins qui sont possibles. Le vote que je vous ai présenté tout à l'heure, le vote par Debian, où on classe, on ordonne les propositions, c'est un type de scrutin qui est possible à faire quasiment qu'en électronique. Parce que si vous imaginez que vous avez une liste où il y a, disons, 12 propositions, vous allez les ordonner, et après, au dépouillement, il va falloir noter qui a mis quoi, quelle proposition avant quelle autre, etc. Le faire à la main, ça va être... les résultats des élections, on les aura un mois après, hein. Donc c'est des scrutins qui sont possibles, ce type de scrutin n'est possible que par voie électronique. Et ça pourrait être intéressant d'utiliser des nouveaux types de scrutins. Un petit bémol dessus, il y a une personne, un scientifique me semble-t-il, qui a essayé de définir les critères d'une élection parfaite, en mettant tout ce qu'on considérerait, on va dire, quand vous regardez les critères, ça paraît assez normal et assez logique qu'on demande ça dans le cadre d'une élection, d'un scrutin parfait. Et en fait, il a démontré que c'était pas possible de tous les obtenir en même temps. Donc en fait, un scrutin parfait, ça n'existe pas. Et de fait, le type de scrutin que vous choisissez pour une élection influence le résultat de l'élection. Donc on voit par exemple, on peut le voir dans les débats les débats en France sur le choix d'avoir un scrutin à la proportionnelle ou un scrutin différent. On va le voir, si vous choisissez une méthode de Condorcet, vous n'avez pas les mêmes résultats que si vous faites un vote à majorité absolue. Si vous faites un scrutin à deux tours, vous n'avez pas les mêmes résultats que si vous faites un scrutin à un tour. Bref, le choix du type de scrutin influe sur le résultat. Donc le vote électronique permet de nouveaux types de scrutin, mais donc ça veut dire qu'on va légèrement influer sur les résultats. Le gros avantage du vote électronique, alors que ce soit pour du vote institutionnel, pour des élections, faire un référendum, une consultation, etc., c'est que ça permet de les faire régulièrement et d'avoir une fréquence élevée de consultation des gens, voire de tendre vers le Graal envisagé par certains d'une démocratie directe où on demande aux gens tout le temps leur avis sur toutes les thématiques. Donc plus de démocratie représentative, on supprime les représentants du peuple et on considère qu'on pose directement les questions au peuple en question, quel que soit le peuple, hein, que ce soit des gens dans une association, une entreprise ou les citoyens d'un pays. Donc il y a quand même un certain nombre d'arguments en faveur du vote électronique. Et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que on voit qu'il y a des avantages, on voit qu'il y a des gros inconvénients et qu'en plus on ne connaît pas de solution au problème qui est posé. Alors, il y a plusieurs approches. Celle qui est majoritairement retenue, dans la sphère politique actuelle, en tout cas dans la sphère au pouvoir actuellement, c'est de dire, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le proverbe Shadok, on va continuer comme on fait maintenant, et puis on verra si ça pose problème. Sauf que ce qu'on a dit précédemment, c'est que justement, s'il y a problème, on ne peut pas le savoir. On le voit pas, ça se voit pas. Si quelqu'un fraude sur une élection électronique et qu'il n'est pas ses patrons à manche, ça se verra pas. En fait, personne ne peut dire que personne n'a jamais triché sur les élections électroniques qui ont déjà eu lieu. Le problème, c'est que comme c'est invérifiable et incontrôlable, ben, on peut ni prouver que ça se passe bien, ni prouver que ça se passe mal. Une autre possibilité, c'est l'abandon du vote électronique, que ce soit de manière temporaire ou permanente. Donc on peut très bien envisager un gel de la question du vote électronique en disant bah, « attendons de trouver une solution » et on y reviendra plus tard quand on aura trouvé une solution. Ou l'abandonner en disant bah, « on arrête, on continue de faire comme on faisait » et voilà. Soit la troisième solution, c'est ben, « mauvais problème, changement de problème ». Dans ce cas-là, il faut dire « ok, ce problème-là, il a pas de solution ou pas de solution actuellement, donc qu'est-ce qu'on accepte de perdre ?» Sur quoi on rogne et qu'est-ce que vous préférez perdre? Vous préférez ne pas pouvoir contrôler l'élection? Vous préférez que le fonctionnement soit inexplicable et que vous votiez sans comprendre comment ça marche? Ou vous préférez que tout le monde sache pour qui vous avez voté? Ou alors vous pensez qu'il faut déplacer peut-être les trois curseurs, trouver des solutions intermédiaires, etc. Ben ça c'est un vrai débat ouvert. En fait, il n'y a pas de solution à ce problème-là non plus. Quand est-ce qu'on fait ça? Dans quel cadre? Est-ce que c'est acceptable au final de dire oh bah ben, tant pis, on va tous voter avec des bulletins ouverts et puis on considérera que puisqu'on ne sait pas faire mieux, ben il n'y a qu'à faire comme ça. Ok, mais est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'on peut dire revenons à la base de la démocratie. À la base, c'est les citoyens, les électeurs en l'occurrence. Se réunissent et décident de mettre en place un système pour prendre des décisions. Alors en fait, la vraie solution au problème, elle risque d'être là, c'est... je vois pas tellement d'autres solutions que de demander aux gens qu'est-ce qu'ils acceptent de faire. Après tout, la démocratie, c'est les gens, et si les gens ils décident qu'ils acceptent telle ou telle chose, ben, faut un peu s'y plier, c'est le principe de la démocratie. Ils peuvent accepter des trucs qui sont... que certains vont juger inacceptable. Par exemple, ils vont dire « Ok, ben maintenant, tous les votes sont à bulletin ouvert, c'est décidé. Ben, » Si une majorité des gens décidaient que ça doit être fait comme ça, ben, pourquoi pas, c'est le principe de la démocratie. Et si une majorité des gens l'acceptaient, par exemple, dans un cadre donné, par exemple, on peut se dire « Il y a une élection associative, après tout, on s'en fout un peu de vérifier le scrutin et de savoir si ça marche correctement. Ben, » voilà, si la majorité des adhérents d'une asso dit je m'en fous de pouvoir contrôler moi-même le résultat de l'élection et je pense que ça va bien se passer, donc c'est pas grave. Ben, si la majorité est d'accord pour ça, ben, pourquoi pas? C'est une assemblée générale, elle est plénipotentiaire. Si elle décide que, elle accepte que ça se passe comme ça, pourquoi pas? Du coup, il n'y a pas de réponse universelle à avoir sur cette thématique-là. Et la seule chose à faire, et la seule chose qui serait nécessaire, et c'est mon regret sur les élections institutionnelles, c'est qu'on fasse les débats après avoir mis les solutions en place. La seule solution qui est, c'est d'avoir un débat avec les électeurs concernés et de leur demander s'ils sont prêts ou non, ce qu'ils pourraient refuser, d'avoir un certain nombre de ce qu'on qualifierait de recul démocratique, en perdant par exemple le secret du vote, etc. Donc un certain nombre de recul démocratique en échange d'autres avantages comme être consulté régulièrement ou être consulté différemment. Donc la vraie conclusion, c'est ça, c'est actuellement, en tout cas, on n'a pas de solution sur la problématique du vote électronique. Le logiciel libre, c'est pas un critère suffisant pour garantir que tout va bien se passer. Et la seule solution qu'on ait, et c'est dommage, elle n'est pas aussi parfaite, idéale qu'on pourrait le souhaiter, c'est de débattre avec les gens qui sont concernés et de leur demander ce qu'ils sont prêts à accepter. Ça veut dire qu'avant de mettre en place une solution de vote électronique, il faudrait demander aux gens si, un, ils acceptent qu'il y ait une solution qui soit mise en place, à condition qu'on leur ait expliqué la problématique et qu'on leur ait mis devant tous les arguments et tous les éléments qu'ils doivent connaître et qu'ils décident qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter, sur quoi ils sont prêts à renoncer et qu'est-ce qu'ils sont prêts à, enfin, comment ils envisagent la suite. Et voilà l'espèce de fausse réponse que je peux vous donner aujourd'hui sur la question du vote électronique. Et je le redis, le logiciel libre n'est pas un critère, enfin avoir du logiciel libre dans une élection et même du matériel ouvert n'est pas un critère suffisant pour offrir une élection satisfaisante par rapport à nos critères actuels de fonctionnement démocratique. Pardon. Je vous remercie. Des questions? Alors je vous demande d'attendre le micro pour la partie questions. Est-ce qu'on a un micro quelque part? Oui, mais c'est pour l'enregistrement audio. Bon, je vais meubler en attendant. La présentation sera disponible, elle est publiée sous plusieurs licences libres et donc elle sera accessible. Vous avez mon adresse de contact si vous souhaitez discuter du sujet, faire des remarques ou autre. Et à la fin de la présentation, il y a la liste des crédits pour les différentes images utilisées.
Voilà, bonjour. Et j'aurais voulu savoir, et l'évolution du vote électronique en France, c'est quoi en fait ?
Dans le cadre institutionnel ?
Ouais, ça augmente, ça...
Alors, là où ça augmente le... Enfin, il y a une régression dans le cadre institutionnel, en fait. Il y a eu le pic du vote électronique dans le cadre institutionnel, ça a été sans doute la présidentielle de 2007 en France. Il y avait 1,5 million d'électeurs, je crois, en vote électronique, et il y avait 80 villes qui étaient concernées, qui se répartissaient de manière très inégale d'ailleurs, enfin qui se répartissaient les trois fabricants de matériel qu'on a évoqués. Il y en a un qui a 75% du marché en France, ou un peu plus, 80%, et les deux autres qui se répartissent le reste. Et il y a eu plein de problèmes, il y a eu les remontées des autres pays où on a vu des failles de sécurité remonter, des problèmes d'organisation, des critiques d'universitaires, d'informaticiens, etc. Et on est plutôt dans, actuellement, le ministère de l'Intérieur a donné des consignes aux mairies en suggérant fortement à celles qui n'étaient pas équipées de ne pas s'équiper, et en gros en disant n'en achetez pas pour le moment, de toute façon on va changer les critères, parce que nos critères ils sont un peu pourris, et on va changer les critères, et donc vous équipez pas maintenant. Ce qui fait qu'il y a des communes qui ont arrêté d'utiliser des ordinateurs de vote, et donc le nombre est plutôt en décroissance pour les élections institutionnelles. En parallèle, les élections professionnelles, et notamment professionnelles et étudiantes, elles se sont mises fortement à utiliser des scrutins électroniques. Récemment, il y a eu le gros flop des élections dans l'éducation nationale. Ils ont fait un scrutin par Internet, la participation était divisée par deux ou trois, il y a eu des bugs, des problèmes d'interopérabilité, plein de soucis. Enfin, voilà. Donc, dans ce cadre-là, ça a été mis en place. Ça a été mis en place pour les élections étudiantes, ça a été mis en place pour un certain nombre de... Il y avait un test à Paris, je crois, sur les prud'homales. Donc, en dehors de la partie institutionnelle, le vote électronique est en train de se développer, et un peu n'importe comment. Pourquoi ? Parce que dans le cadre institutionnel, il y a un minimum d'encadrement, il y a le conseil constitutionnel, il y a les textes, il y a etc. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont là pour râler aussi, je pense. Alors que dans d'autres cadres, il n'y a pas vraiment de contrôle. Pour d'autres exemples, les conseils d'administration des grosses entreprises, ils peuvent aussi avoir des scrutins électroniques. Il y a eu un scandale il y a quelques années parce que il y avait eu du piratage des terminaux de vote dans une grande entreprise et qu'ils avaient passé il y avait un vote qui avait été truqué. Donc, bon, de temps en temps, ça fait un peu l'actualité, mais n'empêche que le vote électronique se développe petit à petit, insidieusement.
Je vais vous demander aussi... Alors moi, je pensais plutôt au cadre institutionnel, mais là, il y a plein de cadres. Et pour... Enfin... au niveau du... Pour faire en sorte qu'il y ait un référendum, justement, pour donner... que tout le monde donne son avis par rapport à ce genre de vote. Enfin, on vous propose. Enfin, comment on fait pour amener cette idée-là à ce que ça soit organisé, à ce qu'on puisse donner notre avis, en fait.
Actuellement, ce qui s'est passé, ça s'est passé sans consultation directement des électeurs, puisque c'est l'actuel président de la République, qui était alors ministre de l'Intérieur, qui a fait convertir le code électoral qui parlait des machines à voter électromécaniques, etc. En législation permettant l'utilisation des ordinateurs de vote. Et à partir de là, les mairies ont été... Enfin, le ministère de l'Intérieur a publié des critères de techniques pour dire comment ça devait fonctionner. En vrai, on a pris les machines qui étaient fournies par des fabricants et on a dit qu'elles respectaient les critères. Et puis c'était parti. Et après, chaque maire faisait ce qu'il voulait dans son coin et choisissait de s'équiper ou pas. Ensuite, les gens ont commencé à râler, les partis politiques ont commencé à s'en mêler aussi, parce qu'après tout, c'est l'enjeu des scrutins, ça les concernait aussi directement. Et il y en a pas mal qui ont commencé à prendre des positions et à s'exprimer. Quasiment tous, sauf un, se sont opposés sur la question de vote électronique. Malgré tout, petit à petit, enfin déjà, il y a des communes de tout parti politique qui ont des équipements, enfin qui utilisent des ordinateurs de vote. Ça pose un vrai problème au sein des partis. Et puis en plus, dans un certain nombre de cas, lors de l'organisation de leur primaire interne ou de scrutin interne, eux aussi, ils ont parfois recours à des questions de vote électronique et ça pose problème aussi. Donc la situation est un peu compliquée. Mais de fait, le citoyen jusque-là peut pas grand-chose à part essayer de pousser auprès des partis politiques et autres. Il y a peu de chances qu'on ait un référendum sur le sujet, sur ce sujet-là précis. Ça m'étonnerait fortement. Il y a ce qui, enfin, globalement, les certain nombre de gens sont actifs sur la question du vote électronique et souvent ça se règle en contentieux électoral. Ils font des recours devant le Conseil d'État, devant le Conseil constitutionnel, devant les tribunaux administratifs, en espérant qu'au bout d'un moment les gens vont comprendre qu'il y a un vrai souci, que ça va donner, qu'il y aura des vrais changements. On peut voir aussi qu'il y a eu des problèmes sur les élections précédentes. Il n'y a aucun changement qui est prévu ou qui a été réellement fait en préparation des prochaines élections. Donc ça sera le même problème pour les prochaines élections. Les enregistrements au micro. Je vais d'abord répondre à la question, celle-là, puis après là-bas.
Quel est le coût d'une organisation, le coût de l'organisation du vote électronique par rapport au vote classique, papier?
C'est une question compliquée et ça dépend pas mal des solutions qui sont choisies. J'ai vu passer des chiffres en Belgique montrant que ça coûtait beaucoup plus cher en électronique. J'ai vu passer des chiffres en France disant que ça coûtait aussi plus cher. Et parfois, il y a des mairies qui annoncent que ça leur revient moins cher. Donc, personne n'a agrégé réellement les chiffres de ce point de vue-là. On aurait pu espérer que le Forum du droit sur Internet fasse ce travail-là, mais en fait, il n'y a pas vraiment ce type de résultat dans la recommandation. Et donc, on ne sait pas trop. Ça dépend fortement de la solution technique qui est retenue. Et ça dépend aussi de la façon d'organiser l'élection. Par exemple, sur ici les Moulineaux, il y a une partie du budget qui a été non négligeable, qui a coûté assez cher, qui est l'envoi des professions de foi aux électeurs. D'habitude, l'envoi des professions de foi aux électeurs est pris en charge par l'État. Et l'État finance ça pour toutes les mairies. Donc, c'est ce que fait l'État pour toutes les mairies qui votent en papier. Et dans le cadre du vote électronique, c'est pas la même chose qu'on envoie aux gens. En fait, au lieu de leur envoyer les professions de foi et les bulletins, il n'y a pas de bulletin dans le cadre du vote électronique. Donc à la place, on leur envoie une copie d'écran de l'interface qu'ils vont avoir à utiliser. Et ça, l'État a décidé que c'était à la charge de la collectivité municipale. Donc c'est la mairie qui paye ça. Donc Russie-les-Moulineaux, c'est 40 000 enveloppes timbrées envoyées avec etc. pour chaque tour. Et rien que cette partie-là, on voit que ça coûte minimum 40 000 euros par tour. Donc ça, rien que cette partie-là, ça a engendré un coût non négligeable. Et en fait, il y a un autre point qui fait que c'est difficile à calculer, c'est que ça dépend fortement de la durée d'utilisation des machines. Plus on les utilise longtemps, plus ça aurait, d'un point de vue strictement coût, ça aurait tendance à les amortir. Or, jusque-là, certes, il y en a quelques-unes qui tombent en panne, mais il y en a encore plein qui sont fonctionnelles. Et pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de chiffres qui soient significatifs en termes de durée de vie des machines.
Oui, bonjour. Moi, je voulais simplement savoir s'il y avait un exemple à l'étranger qui pourrait nous montrer que ça fonctionne.
Ah bah des exemples qui montrent que ça fonctionne la plupart du temps, le résultat il paraît plausible. Donc ça montre que ça fonctionne, c'est un bien grand mot. Le mieux qu'on puisse dire c'est que le résultat il est plausible, puisque on peut pas, comme je le disais tout à l'heure, on peut pas vérifier si le résultat il est correct ou pas. Alors quand vous avez un scrutin qui est serré à 51% contre 49%, et on vous dit bon bah voilà, ça c'est le résultat. Comment vous savez si c'est bien ça que les gens ont voté? En fait, le résultat, il paraît plausible. Ça se trouve, c'était pas 51-49, c'était 49-51. On ne sait pas. Les seuls cas où on voit vraiment qu'il y a un souci, c'est quand l'erreur est évidente. Par exemple, avec des scrutins électroniques, on a vu des résultats où il y avait plus de votants que d'électeurs. Ça, c'est embêtant. On a vu des résultats où il y en a qui avaient zéro voix alors qu'ils avaient voté pour eux. Au moins eux. On a vu des scrutins où les résultats étaient aberrants. On a vu l'erreur des 1024, le 13e bit en Belgique, où il y a une erreur à la fin, on s'en aperçoit. Donc de temps en temps, on voit des erreurs. De temps en temps, on a vu limite des fraudes, où il y a des candidats fantômes qui apparaissent, des choses comme ça. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une erreur. Maintenant, si l'erreur est discrète, que ce soit parce que le bug il fait pas beaucoup de dégâts, ou parce que quelqu'un a fraudé intelligemment, ça se voit pas. Et une problématique, actuellement, sur un scrutin électronique, la seule possibilité de contrôle que vous avez, c'est, j'adore cette fonction, c'est la possibilité de recompter. Donc, il y a une machine, elle vous dit le résultat, c'est 49-51. Il y a un bouton qui dit, voulez-vous recompter ? Ah oui, j'ai bien envie de recompter. Vous appuyez sur le bouton et la machine vous dit, bon, ben, le résultat, c'est 49-51. Vous voulez recompter ? Cette fonctionnalité, je la trouve vraiment excellente. C'est bien parce que c'est obligé dans le code électoral qu'on a mis cette fonction, mais on voit vraiment pas à quoi elle sert, en fait. Et la machine vous imprime le résultat que vous voulez. À la fin, elle vous sort un joli ticket. Elle vous dit, voilà, le résultat, c'est 49-51. Je explique un peu parce que la même machine, moi, elle m'a sorti une heure et une date où l'heure, c'était 65 635, les minutes aussi, les secondes aussi, l'année aussi, le jour aussi, le mois aussi. Donc à partir de là, je me suis dit, elle peut vraiment sortir n'importe quoi, la machine, si on lui demande gentiment.
On a déjà le même problème avec les autres formes plus anciennes de vote. On a des gens qui sont morts, qui votent encore, on a plein de choses. Est-ce qu'il ne faut pas accepter une part de, ben, disons, en fait, de doute ?
Enfin, on peut se dire ça, effectivement, si les gens l'acceptent, pourquoi pas. Mais notez bien que sur la possibilité de truquer la liste électorale, scrutin électronique ou papier, même topo, on peut truquer la liste électorale pareil, ça ne change strictement rien la forme de scrutin. Les machines à voter électromécaniques en France ont été, elles ont disparu parce que à cause de la fraude en Corse. Elles avaient été mises en place pour contrer la fraude en Corse et ils avaient décidé que comme ça éviterait qu'il y ait du bourrage d'urne, etc. Sauf que les limitations techniques du matériel faisaient qu'elles pouvaient pas gérer plus de X candidats. Donc les gens qui voulaient frauder se sont arrangés pour qu'il y ait X plus 1 candidat dans chaque lieu de vote. Bon, bah, c'est une délimitation des machines électromécaniques, mais malheureusement c'est vrai pour les scrutins électroniques aussi, on pourrait trouver ce type de limitation. Et Oui, il y a des problèmes avec le vote papier. Enfin, peu, mais ça arrive. Oui, il y a des problèmes avec le vote électronique. Il y en a même souvent, et ils ont une autre ampleur, notamment la possibilité de nuire à toute l'élection et pas juste à un bureau de vote. Et les seules façons de faire avancer le débat, ben, c'est qu'il y ait un débat. Là-dessus, je ne peux pas offrir de meilleures réponses. S'il n'y a pas d'autres questions... On va conclure, surtout qu'il y a bientôt la prochaine conférence qui arrive. Pas d'autres questions. Je vous remercie de votre attention.